Les pays qui sont aujourd'hui engagés contre le régime de Muammar Kadhafi cherchent à se garantir un maximum de succès dans leur action, disons, vis-à-vis des évolutions libyennes. Donc, étant donné que jusqu'à présent, ce que l'on a vu, c'est que certes, la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne a été garantie par la stratégie des alliés. Mais étant donné qu'en parallèle, ce que l'on a vu également, c'est qu'il y a un bras de fer qui continue à prévaloir entre le régime de Muammar Kadhafi et entre les rebelles anti-Kadhafi, eh bien à partir de là, les pays engagés du côté des rebelles veulent leur donner un maximum de chances afin de ne pas laisser la situation trop pourrir et afin de ne pas se retrouver dans 6 mois devant une opération libyenne toujours ouverte. Et donc, dès lors, on voit bien qu'ils font graviter de manière progressive, mais quand même assez rapide, l'idée selon laquelle il ne faudrait pas s'étonner de les voir armer les rebelles, c'est-à-dire de les voir donner des moyens aux rebelles sans pour autant donner l'impression de contourner la résolution 1973, qui pour sa part parlait quand même d'une absence ou de la nécessité d'une absence de forces terrestres étrangères sur le sol libyen.
On a toujours des craintes par rapport à un armement d'une population, disons, entre guillemets. Quelles peuvent être les conséquences? Est-ce qu'on peut se retrouver dans la situation afghane, disons?
Le risque qui est pris par les pays en faveur de cette hypothèse est quand même de soutenir un Conseil national de transition ou de soutenir des représentants qui finalement n'ont pas donné aujourd'hui la preuve de ce qu'ils sont en phase avec une écrasante majorité des Libyens. Ce que je veux dire par là, c'est que ce Conseil national de transition, il existe et il représente certains intérêts parce qu'il y a des pays extérieurs, notamment des pays occidentaux, qui ont décidé qu'il serait le représentant légitime des aspirations du peuple libyen au changement, mais en contrepartie, cela ne veut pas dire pour autant que les Libyens sont soit pro-Kadhafi, soit pro-Conseil national de transition. Donc dans cette hypothèse, supposons que Kadhafi tombe et le Conseil national de transition ait des moyens armés, le problème qu'il y aura, c'est que les autres contingents qui auront eu des moyens armés mais qui ne seront pas en phase avec le Conseil national de transition pourront prendre le risque de s'autonomiser et donc disons, de mettre à mal de manière supplémentaire toute idée de consolidation de l'unité nationale libyenne.
En ce qui concerne une possible infiltration d'Al-Qaïda dans les rangs de l'opposition libyenne, dans les rangs de l'insurrection, est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est une hypothèse plausible?
Je crois que dans l'état actuel des choses, le Conseil national de transition consiste de toute façon en un regroupement de différentes tendances, de différents mouvements et de différentes conceptions politiques et idéologiques. Et donc, en ce sens, il ne faudrait pas s'étonner de voir que certaines options tendant plutôt vers l'islamisme soient effectivement présentes parmi certains membres de ce Conseil national de transition. Maintenant, est-ce pour autant que Al-Qaïda comme tel est en train de noyauter ou pourrait noyauter ce Conseil national de transition? Très honnêtement, je serais plutôt prudent vis-à-vis de cette hypothèse, parce qu'il y a un islamisme qui a prévalu en Libye et qui lui-même a été en contradiction ou a été en conflit avec l'organisation Al-Qaïda. Donc là, à partir de là, ça sépare quand même les perspectives entre Al-Qaïda et des islamistes libyens potentiels. Mais de surcroît, dans le cas de ces islamistes libyens, certes, certains d'entre eux sont plutôt radicaux, mais je n'ai pas l'impression qu'ils puissent former la majorité des aspirations présentes au niveau des tendances politiques libyennes. Donc je crois que finalement, si on a à composer avec les islamistes en Libye, c'est plutôt avec une formation qui prévaudra au sein de tant d'autres formations.
Est-ce que peut-être les Américains, la communauté internationale, disons, sous-estiment la puissance militaire de Kadhafi? Quelle est-elle? Quelle est son importance? Est-ce qu'il dispose de ressources militaires importantes?
Les contingents qui ont été engagés contre Kadhafi avaient une bonne idée ou une assez bonne idée des moyens effectivement détenus par Kadhafi. Et en l'occurrence, la zone d'exclusion aérienne a eu pour vocation de mettre à mal tout un ensemble, toute une armada ou tout un ensemble de moyens détenus par Kadhafi. Et on pourrait dire que l'objectif a été plus ou moins atteint jusqu'à présent. Mais le problème qu'il y a pour les contingents engagés vis-à-vis de Kadhafi, c'est que finalement, ils ont, je crois, sous-estimé, on va dire, la part assimilée asymétriques pouvant découler de leur confrontation vis-à-vis de Kadhafi. C'est-à-dire que les contingents engagés arrivent avec des moyens lourds, avec des moyens destructeurs, qui peuvent être soit ciblés, soit d'ampleur, alors que Kadhafi, pour sa part, a eu la faculté et la possibilité de recourir à des cellules, à des réseaux et à des attaques ponctuelles, qui, pour leur part, supportent mal une attaque directe de la part de gros bombardiers ou de la part de gros avions. Donc, en ce sens, je crois qu'il n'y a pas eu sous-estimation du potentiel de Kadhafi, mais par contre, il y a eu sous-estimation de sa capacité de résistance et de sa stratégie. Et donc, en l'occurrence, c'est ce qui fait que la situation prend encore du temps avant que de pouvoir déboucher vers un horizon qui demeure inconnu pour l'instant.